premier colloque du syndicat français des arts thérapeutes. Corps présent, corps absent en art thérapie. Samedi 25 juin 2022.
Cas clinique à mon corps présent et absent. Par Béatrice Garcia Réan, art thérapeute.
Donc tout d'abord, je remercie l'équipe du conseil syndical d'avoir porté une attention à la vignette que j'ai proposée et puis de me donner l'opportunité de la présenter aujourd'hui pour ce premier colloque. Je vous avoue que j'appréhende un peu puisque du coup, c'est la première fois que j'interviens sur ce format de visio. Donc, j'ai une petite crainte au niveau de comment ça va pouvoir se jouer en termes d'interaction et puis en termes de rendu, mais je vais me prêter à l'exercice. Donc, je me présente, je m'appelle Béatrice Garcia, je suis art thérapeute depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai fait ma formation à l'INECAT auprès de Jean-Pierre Klein, formation complétée par des apports universitaires avec le master de Paris Descartes. Et puis d'autres types de formations autour de la psychopathologie, autour des marionnettes et autour de la prise en charge spécifique des adolescents. Donc, ça a été intéressant en lisant le thème du colloque, de voir un petit peu ce que ça avait mis en écho chez les uns et les autres. Qu'est-ce que ça avait réveillé comme résonance dans nos pratiques, dans nos médiations. Depuis hier, oui, on parle de la question du corps, corps présent, corps absent, dans des aspects différents, dans ce que ça peut renvoyer au niveau du dispositif, dans ce que ça peut renvoyer au niveau du médium, dans ce que ça peut renvoyer aussi au niveau du corps même de l'art thérapeute, de sa présence à l'autre. Pour ma part, quand j'ai lu le titre du colloque « Corps présent, corps absent », une patiente m'est venue directement en tête. J'ai pensé à elle tout de suite et je me suis dit « oui, ça pourrait être intéressant de pouvoir écrire là-dessus, de pouvoir partager là-dessus, d'autant que ça fait partie de mes premières prises en charge en art thérapie ». Donc, je vais vous parler là de Rebecca, d'une petite fille que j'ai reçue en art-thérapie il y a voilà, plus d'une dizaine d'années dans un CAMS. Donc, le CAMS, c'est un centre d'action médico-sociale précoce. C'est une structure médico-sociale qui reçoit les jeunes enfants âgés entre 0 et 6 ans présentant des problématiques diverses de socialisation, de langage, d'apprentissage. Ça va des troubles de la périnatalité aux troubles spécifiques du développement. Donc, c'est un CAMS qui fonctionne avec une grosse équipe pluridisciplinaire hein, composée de professionnels médicaux, paramédicaux, rééducateurs, sociaux, éducatifs, et puis le petit tiers-temps d'art-thérapie qui est assuré par moi. Ce CAMS travaille en interaction et en réseau avec les services de néonat, de pédiatrie, de chirurgie pédiatrique, médecine scolaire et diverses autres institutions et s'inscrit dans un service hospitalier et plus particulièrement un service de pédopsychiatrie. Donc, la jeune Rebecca dont je vais vous parler est adressée au CAMS par le service de chirurgie pédiatrique vers l'âge de 3-4 ans pour la soutenir dans un projet d'appareillage, d'aider dans la question de la séparation et d'individuation, dans sa socialisation, dans un contexte de lourd handicap. Donc, Rebecca, c'est une petite fille qui est née avec une malformation congénitale des membres inférieurs, ce qu'on pourrait appeler une agénésie tibiale. Donc, c'est un handicap qui entrave toute possibilité de marche sans une intervention chirurgicale orthopédique assez conséquente qui nécessite une amputation des membres inférieurs. À son arrivée au CAMS vers 3-4 ans, où je ne la connais pas encore, que Rebecca est trop jeune pour qu'une intervention chirurgicale de ce type-là soit envisagée. Donc, l'essentiel de ce projet de soins tourne autour de l'accompagnement médical, psychologique, social et éducatif du handicap, la rééducation psychomotrice et la kinésithérapie avec la première phase, on va dire, de l'appareillage qui consiste à être en fauteuil roulant. Le projet de soins de Rebecca se déploie avec l'équipe pluridisciplinaire du CAMS, bien sûr en lien, comme je vous disais, avec le service de chirurgie orthopédique et les partenaires extérieurs. Pas évident d'organiser son accès à la socialisation, puisque les contraintes que peuvent présenter, en tous les cas, l'accessibilité de certains locaux de socialisation avec les équipements fauteuils, dont je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, où l'école maternelle n'était pas obligatoire. Donc, les choses sont un peu laborieuses pour elle et se font assez difficilement. Et puis, à ces difficultés de handicap se rajoute toute la complexité aussi des liens mère-enfant, qu'en lien avec la surprotection que peut susciter, voilà, justement, les situations de handicap, puisque quelques éléments d'anamnèse, Rebecca est la dernière d'une fratrie de 3 enfants, avec un couple de parents, voilà, qui est très dans la surprotection. Et qui viennent s'installer en Guadeloupe pour accéder à des soins, parce qu'ils viennent d'une île voisine où les questions de prise en charge sont un peu plus compliquées. Autour des 5 ans de Rebecca, commence à s'envisager un autre type d'appareillage que le fauteuil roulant pour lui permettre d'acquérir la station de. Donc, toute l'équipe de soins qui est déjà engagée auprès de Rebecca et de sa famille semble investir ce projet qui nécessite quand même. L'amputation d'une partie de ses membres inférieurs. Donc, tout le monde est très enthousiaste, même Rebecca peut le paraître, puisque voilà, tout le monde se dit qu'elle aime les chaussures, elle a souvent de très jolies chaussures, même si elle est en fauteuil, et elle réclame même des chaussures de princesse à sa maman. Cependant, cet enthousiasme qui semblait général se teint progressivement d'une prise de poids conséquente de Rebecca, et cette prise de poids donc, devient non compatible avec la mise en prothèse. Parallèlement aussi, s'observent des manifestations d'agressivité, Rebecca, hein, d'hétéro-agressivité dans ses interactions sociales, au domicile familial, et même des mouvements d'opposition peuvent être observés dans les espaces de rééducation qu'elle avait jusque-là investis. Dans une incapacité à pouvoir mettre des mots dessus, même dans l'après-coup de ces moments d'agressivité, Rebecca se refermant un peu sur elle-même, puis les interactions s'appauvrissant. Donc, c'est dans ce contexte de majoration des comportements d'agressivité et puis de prise de poids que l'indication de prise en charge en art-thérapie est discutée et validée en réunion de synthèse, dans l'objectif de lui permettre de trouver un espace d'expression différent des espaces thérapeutiques qui sont déjà en œuvre dans son projet de soins. Rebecca et ses parents sont d'accord pour que cet espace-là se mette en place. Une alliance thérapeutique s'installe assez rapidement, puisque avant de démarrer toute prise en charge, j'ai toujours un temps de rencontre entre l'enfant, le parent et puis on va dire le médecin qui pose l'indication et qui connaît déjà la famille, qui introduit la proposition. Donc, il y a toujours un temps de rencontre préalable où je m'assure que l'enfant, autant que le parent, voilà, soit d'accord pour la mise en place de cette prise en charge. Donc, pour Rebecca, nous convenons de séances individuelles d'une heure hebdomadaire. Donc, aux premières séances, je rencontre une petite fille qui accepte la relation, même si elle ne répond que si je la sollicite, mais avec une qualité de présence et une curiosité qui est perceptible. Elle explore l'espace de massage du regard, pointe le doigt vers les objets et les matières qui l'intéressent. Donc, je fais juste une petite parenthèse pour dire que la pièce que j'occupais à cette époque était une ancienne cuisine de l'institution, donc une petite pièce d'une 12 mètres carrés, tout en longueur, avec un point d'eau, le matériel d'art plastique qui était visible sur les étagères, en hauteur, un coin table, un coin tapis avec un bac à jouets sensoriel et un mur équipé d'un panneau contreplaqué servant de chevalet. Donc, je fais cette petite digression-là en pensant à tout ce que Isabelle a évoqué ce matin dans la question aussi de l'espace. Je pense que oui, c'est intéressant de s'arrêter sur quel est l'espace justement que l'institution met à disposition pour les séances. Ça aussi, c'est intéressant de voir, en tous les cas dans mon cheminement, comment au fil des années, cet espace d'art-thérapie a pris sa place dans l'institution de par l'espace qui lui était dévolu. Aux séances, Rebecca demande rapidement à quitter son fauteuil pour s'installer au sol. Et je trouve une petite fille d'une certaine agilité, une agilité surprenante hein, malgré son poids et son handicap. Elle, comme je vous dis, elle se montre curieuse et elle pointe et elle s'intéresse à la peinture. Donc, elle engage un cheminement de création par une exploration exclusivement sensorielle de la peinture, dans un premier temps sans consigne, dans une liberté d'être et de faire. Elle peint directement avec les doigts, elle se passe rapidement des pinceaux, les doigts, les mains, dans des choses très, très archaïques. Elle peut faire des choix de couleurs de manière autonome. Elle investit l'ensemble de la surface de la feuille mise à disposition. Donc, au fil des séances, ces productions de peinture s'inscrivent dans une certaine répétition, des mouvements de remplissage, des magmas de couleurs, jusqu'au jour où elle arrive en séance avec un magazine féminin qu'elle feuilletait certainement en salle d'attente. Je me saisis alors de ce journal comme une proposition de matériau plastique qu'elle emmène pour une nouvelle exploration. Donc, je l'invite donc à explorer tactilement ce journal de diverses manières, en alternant yeux ouverts, yeux fermés, rapidité, lenteur, en explorant tous les gestes possibles dans le contact avec cette matière. Donc, c'est ainsi que Rebecca commence à froisser, enrouler, plier, arracher, déchirer, sous mon regard approbateur. Ces gestes d'exploration lui procurant une telle jubilation avec des fous rires que cela m'amène à soutenir ce côté ludique les séances suivantes en lui proposant d'autres matériaux à textures diverses, donc papier, de soie, journal, carton, avec différentes propositions de déchirer à main nue, au ciseau ou à l'aide des dents, voilà, d'autres parties du corps. Dans toute cette exploration, elle met en œuvre un véritable engagement du corps et sensoriel, puisque la matière peut se voir, se toucher, se sentir, s'écouter avec les résonances sonores de la manipulation, se goûter. Et aux séances qui suivent, donc j'invite Rebecca, au travers d'une consigne de collage, à trouver une place, une organisation, un agencement des formes, des matières et des différents éléments, figuratifs ou pas, advenus au cours de ce premier temps d'exploration. Donc le collage reste une expression créative simple et ludique qui reste assez accessible aux jeunes enfants. Et par ailleurs, je vais pouvoir aussi lui proposer, d'une séance à l'autre, de pouvoir aussi ramener des petites choses de son quotidien qu'elle pourrait intégrer à ses productions. Donc, papier de bonbons, petit prospectus, petit bout de tissu. Commence alors une combinaison d'éléments qui, au départ, n'étaient pas forcément destinés à être rassemblés. Même si Rebecca s'appuie régulièrement sous mon regard approbateur hein, tout au long de son cheminement, elle vérifie bien si ce qu'elle peut faire m'interroge, si je suis surprise, si j'approuve. Elle a quand même un investissement important dans ce qu'elle est en train de faire et ne semble pas limitée ni être limitée dans une question esthétique de ce qu'elle est en train de faire. Un jour en séance, comme ça, surgira Béatrice. Que vont devenir mes jambes? Moi, j'aime mes jambes. Sous-entendu, éventuellement, une fois qu'elles auront été coupées. Je vous avoue que j'ai été très surprise de ces propos. Je ne sais pas comment, dans cette présence que je lui accordais, comment je ne me suis pas retrouvée sidérée et comment j'ai pu reformuler son questionnement. Mais là, alors seulement, au travers de son propos, soutenu par sa production collage, je me rends compte que, en tous les cas, dans tout qui avait beaucoup préoccupé, à la fois nous, équipe soignante et parents, les aspects, en tous les cas, rééducatifs, préoccupés par les possibles appareillages de prothèses pour permettre à cet enfant l'acquisition de la marche, n'avait pas suffisamment questionné son vécu émotionnel et sensoriel qui pouvait être lié, voilà, à l'angoisse de l'amputation et surtout du devenir de ses membres même défectueux. Cette prise de conscience par et avec une sorte d'effraction du réel dans l'espace thérapeutique m'a alertée sur la nécessité de porter une attention particulière sur ce dans ce travail de collage qu'on avait engagé qui allait être mis au rebut. Donc, mon accompagnement art thérapeutique s'est alors focalisé sur cette question centrale. Faudrait-il exiger ou pas, dans ce travail de création en cours de collage, que tous les fragments de matière soient utilisés d'une manière ou d'une autre? J'ai beaucoup tergiversé avec cette question. Et donc, je ne reprendrai pas ici tous les concepts théorico-cliniques qui m'ont nourri et qui continuent à nourrir mon appareil à penser, mais de nombreux auteurs se sont attelés à théoriser sur le processus de symbolisation et de création. Donc là, je n'en citerai que quelques-uns en soulignant les aspects thérapeutiques du collage. En premier lieu, je pensais à toutes les résonances, en tous les cas cathartiques et émotionnelles suscitées par les gestes pulsionnels convoqués au travers des actes de déchirer, arracher, mettre en pièces. La dimension symbolique du jeu et des mouvements de déconstruction, reconstruction infinie mis en œuvre au travers du processus de création. La stratégie du détour, le mine de rien, de l'inconnu de soi que l'on est vers l'inconnu de soi que l'on crée. Et aussi beaucoup la fonction d'enveloppe et de peau. René Roussillon-Didien, donc symboliser, c'est réunir, relier autrement deux ou plusieurs éléments probablement séparés. C'est un travail psychique qui inclut trois processus: séparer, différencier, réunir. Du côté plastique et artistique, le collage relève d'un procédé de voir une image dans une autre ou dans plusieurs autres. Du côté artistique aussi, de nombreux artistes ont permis au collage d'être élevé au rang d'art. Pour citer pêle-mêle, donc Picasso, Braque, Matisse, Donadieu ont introduit une très grande liberté dans la construction d'un nouveau type de réalisation plastique en deux dimensions, frappant par leur poésie, leur côté insolite ou leur message. Dans le cas de Rebecca, nous pouvons faire l'hypothèse qu'à travers son cheminement de création, c'est certainement l'image de son propre corps présent, son propre corps en morceaux qui est en œuvre et en transformation. Toute l'exploration tactile et sensorielle des différents matériaux peuvent s'apparenter aux pratiques chirurgicales de prélever, disséquer, découper, amputer, pour ensuite assembler avec ou sans ordonnancement, sans toutefois perdre l'identité et les propriétés originelles des matériaux. À son corps présent défaillant, aux membres défectueux, au présage du corps absent, qui plus est, pris dans ce mouvement de séparation-individuation nécessaire à l'autonomisation et à l'acte de grandir. Dans le travail de composition et d'assemblage que sous-tend le collage, cela interroge à mon sens le corps présent, le corps rêvé, le corps fantasmé, le corps absent. J'ai pris le parti de continuer à conserver tous les petits bouts de papier de rebut dans une boîte qui lui était accessible pendant tout son temps de prise en charge en art-thérapie. C'est ainsi qu'une boîte que j'ai appelée un peu boîte à trésors a alimenté une dizaine de ses productions, peinture, collage, au fil des séances suivantes. Une diminution des comportements d'agressivité était notable, la perte de poids moins significative, un mouvement de séparation, individuation était en œuvre. Après moult échanges en équipe pluridisciplinaire, le report de l'intervention chirurgicale pour l'appareillage en prothèse a été différé au profit de pouvoir continuer à accompagner Rebecca et sa famille vers ce possible. En ce sens qu'il a été important de la soutenir à être sujet de soins et non objet de soins, malgré son jeune âge, et lui permettre d'avoir une part active dans les décisions d'intervention chirurgicale et d'appareillage, aussi bienveillante qu'il puisse être. Sa prise en charge en art-thérapie s'est achevée avec la fin de son suivi au CAMS à ses 6 ans révolus. Son projet de soins s'est poursuivi sur un CESAD spécialisé en polyhandicap. Lors des dernières séances que j'ai eues avec Rebecca, dans, on va dire, ce que j'ai pu lui proposer pour clôturer cet espace autour des réminiscences du chemin parcouru, revoir les différentes productions, elle emportera la majorité de ses productions. Elle n'en laissera que quelques-unes qu'elle jugera moins réussies et la boîte à trésors en me disant « c'est pour toi, ça reste ici ». Pour conclure, je dirais que j'ai été interpellée par ce que je changerais de mon accompagnement art-thérapeutique de Rebecca si je devais le revivre aujourd'hui à la lumière de mon expérience et de ma pratique clinique d'aujourd'hui. Je dirais que je suis devenue un peu plus réceptive aux aspects émotionnels qui peuvent accompagner les effractions du corps. Ce corps aussi, si je puis dire, défectueux qu'il puisse paraître. Au début de ma pratique, je laissais une grande part aussi de liberté de choix du médium aux enfants pour laisser advenir avec des appuis, tout en leur proposant des appuis, mais sans consigne de création, en privilégiant la rencontre et l'alliance thérapeutique dans un cadre contenant et bienveillant. L'essentiel pour moi en art-thérapie étant dans la qualité de présence, cette présence que ce matin Isabelle évoquait, d'être là, disponible, à l'écoute, tous les sens en alerte. Je m'interroge sur la pertinence qu'il y aurait eu à lui proposer un médium plutôt qu'un autre. Je pense notamment à l'argile et ou encore pouvoir formuler, je ne dirais pas un dispositif, mais pouvoir formuler une consigne qui serait autour de la question du rebut. Pour finir, je dirais aussi, j'ai proposé de garder tous les fragments dans une boîte d'une séance à l'autre, mais j'aurais pu aussi bien lui proposer de faire le tri à la fin de chaque séance sur ce qu'elle voudrait garder et accepter qu'elle puisse en jeter. C'est aussi une des questions qui m'ont traversée dans l'après-coup. Pour finir, que l'art thérapeute est garant du cadre et du dispositif de création qu'il propose, il n'en obère pas moins que tout au fil de notre cheminement professionnel, on n'est pas à l'abri d'écueils. De pouvoir et de savoir repérer dans nos observations, nos analyses de pratique et nos supervisions, justement ce qui pourrait être ajusté, réajusté, pour nourrir notre questionnement continu, car ce sont les patients et nos éprouvés qui nous permettent d'advenir à art thérapeute.